France Inter, le 18-20.
C'est donc l'acte 2 qui a été adopté hier soir à l'Assemblée. L'acte 2 après les ordonnances, la loi travail au début d'année. Cette fois, c'est la formation professionnelle, l'apprentissage principalement, l'assurance chômage aussi qui sont au rendez-vous de ce volet-là après les entreprises, donc les salariés. Projet de loi Avenir professionnel. Le pitch du gouvernement, c'est de libérer le choix professionnel des salariés. On parle d'un projet de loi qui se veut aussi celui de l'émancipation. On tâchera d'éclairer ça et surtout d'être très concret grâce à vous. Vous êtes indépendant, vous cherchez à savoir si oui ou non vous aurez droit à une indemnisation chômage, vous êtes démissionnaire, comment ça va se passer pour vous? Comment s'articule ce nouveau compte personnel formation? Vous êtes apprenti, qu'est-ce qui change pour vous? À qui on promet depuis des lustres que vous ne serez plus relégué au fond des classements? Pourquoi d'ailleurs, puisqu'on parle apprentissage, le rôle des régions a-t-il été réduit au profit de celui des branches? Vous êtes chômeur, est-ce que vous devrez cesser de cumuler emploi et chômage? C'est quoi la fameuse offre raisonnable d'emploi qu'on vous demande d'accepter? Allez-y, toutes les questions sont bonnes à prendre et profitez-en. Vous avez la ministre du Travail en face de vous jusqu'à 20h. Muriel Pénicaud est avec nous. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et je vous salue d'abord. Bonsoir Muriel Pénicaud.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Au téléphone sonne. Pascal, c'est vous qui commencez. Bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Madame la Ministre et bonsoir à toute l'équipe. Voilà, j'ai un problème très précis à vous poser. J'aurai 62 ans en novembre prochain. Je suis déjà en train d'entamer des formalités pour ma retraite. Je suis en chômage de longue durée. Je ne bénéficie que de l'allocation de solidarité spécifique, c'est-à-dire à peine 500 euros par mois. Et dans le cadre du contrôle des chômeurs qui a été mis en place et très rapidement suivi des faits, si j'en juge, j'ai reçu un dossier de 6 pages à remplir, me demandant quelles étaient mes recherches d'emploi. 6 pages recto verso de la part de Pôle emploi Normandie. J'habite à Caen. Alors ma question, c'est à quoi rime de demander à des gens, alors qu'il y a plusieurs millions de chômeurs, qu'il y a quelques centaines de milliers d'emplois, à quoi rime de demander à des gens qui sont à 4 mois, 4-5 mois de la retraite, de justifier d'une recherche d'emploi si elle n'est pas justifiée, peut les amener à la radiation? Qu'est-ce que je fais si je suis radiée? Est-ce que je vais tendre une fébile dans la rue? Est-ce que je peux prendre une pré-retraite, sachant que j'ai déjà tous mes trimestres? Voilà, c'est une simple question. Je pense qu'elle va concerner beaucoup de monde, parce que je trouve ça, excusez-moi, aberrant. Je pense que les gens de Pôle emploi ont mieux à faire que d'envoyer ce type de dossier et de les éplucher.
Pascal, merci beaucoup. C'était l'entrée en matière. Muriel Pénicaud, qu'est-ce qu'on peut répondre très concrètement? Alors, à Pascal?
D'abord, bonjour Pascal, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom. Je comprends votre émotion. Je pense que très honnêtement, il y a dû avoir une erreur, mais on pourra vérifier en antenne, parce que évidemment, les personnes qui sont proches de la retraite sont dispensées de recherche d'emploi pour toutes les raisons que vous avez évoquées. C'est, je veux dire, le bon sens humain. Et donc, écoutez, on pourra vérifier, mais parce que la situation que vous me décrivez m'étonne beaucoup, parce qu'en principe, ça ne devrait pas arriver à quelques mois de la retraite.
Alors, pardon, allez-y Pascal.
Oui, merci. Sur la foi de ce que vous me dites, est-ce que je peux retourner le dossier à Pôle emploi en disant que votre intervention me fait penser que je suis effectivement bien dispensée de recherche?
Ben, vous pouvez tout à fait le retourner. Et si hors antenne, vous voulez donner votre nom, je m'assurerai avec mon équipe que c'est bien reçu.
Ben, je vous en remercie. Et j'espère que ça aidera d'autres personnes, parce qu'à mon avis, je suis sûrement pas un cas isolé, malheureusement.
Si, heureusement. Mais heureusement, non, bien sûr.
Ça m'étonnerait quand même.
Je peux parler un peu de l'emploi des seniors.
Ouais.
Aujourd'hui, on constate que les entreprises recrutent de nouveau, ce qui est une bonne nouvelle. L'augmentation, plus de 48 000 emplois ont été créés depuis le début de l'année, 288 000 l'année dernière. Mmh. Et c'est vrai que les employeurs, pendant des années, comme ils réduisaient plutôt leurs effectifs qui créaient de l'emploi, c'est vrai qu'ils embauchaient très peu les seniors. Et nous, dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on met un droit à la formation aussi pour les seniors, parce qu'on peut avoir 58 ans, se former et évoluer dans son métier. En revanche, on ne change pas le fait que qu'on est à quelques mois de la retraite, on est effectivement dispensé de recherche d'emploi. Si on en trouve un, tant mieux, mais c'est pas là que doit être mis l'effort.
Alors Muriel Pénicaud, puisqu'on est dans le contrôle des chômeurs, c'était le sens aussi de la question de Pascal, même si pour elle, effectivement, et fort heureusement, en fin de carrière, c'est différent. Ça veut dire que, de toute façon, c'est toujours ces 6 pages à remplir lorsqu'on est un chômeur contrôlé, quand on est au milieu de sa période de chômage.
Non,
ça paraît lourd quand même, non?
La plupart des contrôles, d'abord, c'est surtout... Pourquoi il y a des contrôles, déjà? Il y a des contrôles parce que c'est une logique de droit et devoir. L'assurance chômage, c'est-à-dire que tout le monde paye pour qu'en cas de coup dur, de risque, eh bien, on puisse être assuré, c'est-à-dire recevoir l'assurance chômage. Donc, dans tout système, comme la sécurité sociale, comme les impôts, c'est normal qu'il y ait du contrôle.
Mais est-ce qu'on
la
sait,
grande, ça, la ça grande, grande majorité.
Ben voilà ça. Donc, est-ce que ça se chiffre, la fraude à l'assurance chômage?
Le chiffre financier, franchement, n'a pas d'importance, c'est pas le but. C'est juste que tout le monde considère que c'est juste. Aujourd'hui, par exemple, Pôle emploi a fait des contrôles l'année dernière sur 300 000 demandeurs d'emploi. Ils ont découvert que 66% cherchaient très activement un emploi, 20% étaient découragés, on peut le comprendre aussi, quelquefois on fait plein de démarches, au bout d'un moment les bras vous tombent, quoi, si on a des portes closes partout. Et donc ça a permis de remobiliser à la fois le demandeur d'emploi et le conseiller Pôle emploi avec des issues positives. Et puis il y avait 14% qui, n'ayant pas de problème de santé ou personnel ou de qualification, n'ayant pas de problème particulier, ne cherchaient pas. Et à ce moment-là, une partie d'entre eux était indemnisée. Donc là, c'est une question plutôt pour que les autres salariés ou les autres demandeurs d'emploi et tous les entrepreneurs qui cherchent à embaucher trouvent que ça soit juste. C'est pour ça que
donc la finalité, elle n'est même pas financière.
La finalité,
en
le contrôle,
fait.
Elle est d'abord. Parfois, le contrôle a permis, dans 20% des cas, de voir, de rencontrer des personnes qui avaient un peu abandonné, mais on avait peut-être abandonné aussi du côté Pôle emploi. Donc, ça a permis de remobiliser tout le monde. Et puis, il y a une minorité de cas où ça permet, et ça, c'est logique qu'il y ait des sanctions, au sens que c'est les autres qui payent pour cette assurance chômage. Donc, c'est normal quand on cherche un emploi. Mais si ce n'est pas le cas, c'est normal qu'il y ait un contrôle et une sanction.
Et puisqu'on est sur ce thème-là, ça n'empêchera pas d'ailleurs des questions du même genre de revenir. La fameuse offre raisonnable d'emploi dont on parle, ça veut dire quoi, une offre raisonnable d'emploi?
Alors, ça existe dans la loi, ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, ça existe dans la loi et aujourd'hui c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de votre situation personnelle. Or, notre conception, c'est que ce qu'on appelle une offre raisonnable d'emploi, c'est pas pareil si vous habitez au milieu d'une grande ville où il y a beaucoup d'emplois, vous n'avez pas de problème de transport et vous avez les qualifications qui correspondent au marché. Et c'est pas la même chose si vous êtes une femme seule avec des enfants en zone rurale, que vos enfants ils doivent aller à la crèche, que la crèche elle ouvre à un certain horaire et vous pouvez pas prendre un emploi qui commence avant. Et donc l'idée, c'est que le conseiller Pôle emploi, qui est le conseil du demandeur d'emploi et le demandeur d'emploi, au début de l'accompagnement, ils définissent une stratégie en disant « on va chercher plutôt large ou plutôt serré ou dans ce type d'emploi et voilà mes contraintes ». Et c'est à partir de ça que se déroule, j'allais dire, toute la stratégie commune, l'action commune pour aider le demandeur d'emploi à trouver un emploi. Alors, et c'est sur cette base-là qu'on contrôlera les efforts.
Et on imagine et on espère que ça se passe bien évidemment entre la personne de Pôle emploi et la personne en recherche d'emploi, mais qui détermine que cette offre est raisonnable?
Alors,
au fond,
ils définissent ensemble. Ils définissent ensemble ce qui va être raisonnable, ce qui faisait qu'il n'y a pas de surprise, on ne découvre pas après coup qu'on aurait dû accepter quelque chose, on le définit ensemble, a priori, le demandeur d'emploi et le conseiller, et si le demandeur d'emploi ne s'y retrouve pas, il y a un système de recours dans la hiérarchie de Pôle emploi pour évidemment en parler à une autre personne si le demandeur d'emploi ne s'y retrouve pas. Mais vous savez, moi je vais tout le temps voir des agences Pôle emploi, le niveau d'engagement des agents de Pôle emploi est très élevé. Et eux, ils se lèvent le matin, pourquoi ? Pour aider les demandeurs d'emploi à trouver quelque chose. Donc, je crois beaucoup. Moi, il ne faut pas faire du contrôle bureaucratique. Il faut que ça soit à échelle d'homme, comme on dit. Il faut que ce soit humain. Eh bien, le fait qu'ils définissent ensemble en disant « voilà ce que je pourrais prendre, mais pas ça, pas tout de suite, pas maintenant », et qu'ils définissent ensemble, je crois que c'est plus humain et que ça sera plus efficace.
Bonsoir, Solène.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Solène, on vous écoute.
Merci. Oui, moi je vous appelais concernant la création d'entreprise. Donc je suis en profession libérale, ça fait maintenant que je me suis installée. Et j'ai été assez surprise par les frais en fait de création d'entreprise, que ce soit les charges URSSAF, CIPAV, les choses comme ça, tous les frais liés à la création d'entreprise. Et le peu d'aide au final proposé par le gouvernement, sachant que la politique Macron se veut... veut aider en tout cas la création d'entreprises. Donc voilà, je trouve quand même pas assez dur concrètement dans les faits de créer une entreprise.
Alors, ça c'était un peu le premier volet, on va dire, de la loi travail.
Et donc, Solène, peut-être deux éléments de réponse. D'abord, effectivement, et c'était dans la campagne présidentielle de celui qui est devenu président de la République, Emmanuel Macron, il y a l'idée d'encourager l'entrepreneuriat parce que ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi dans notre pays. Et l'année dernière, 500 000 créations d'entreprises ont eu lieu, dont la moitié sont des micro-entrepreneurs, personnes qui, comme on dit, se lancent à leur compte. Alors, par rapport à ça, il y a deux sujets. Il y a le premier qui est dans le projet de loi que je porte sur l'avenir professionnel, qui est qu'on va permettre, mais j'ai compris que vous étiez indépendante, ce n'est pas votre cas, pour les salariés qui ont un projet de création d'entreprise ou de reconversion, de pouvoir démissionner et bénéficier du temps et de l'argent, j'allais dire, de l'assurance chômage, pour mener leur projet à bien. En ce qui concerne les formalités, vous avez raison, ça a été un petit peu simplifié dans le passé, ça reste très compliqué. Et ça, c'est mon collègue Bruno Lemaire qui, dans le cadre du projet de loi PACTE, dans quelques mois, portera des simplifications sur la création d'entreprises.
Voilà, on y reviendra peut-être plus concrètement. Je voudrais qu'on écoute Steven. Bonsoir Steven.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir Madame la Ministre. Je vous appelle parce que je suis donc en lancement de mon entreprise de promenade en mer, donc à Bayonne. Mmh. Et je bénéficiais donc du maintien de mon indemnité Pôle emploi pour le lancement de mon activité. Je voulais savoir ce qui va être fait si ce comment.
Là, pour cette.
Si ça reste d'actualité ou s'il y a un nouveau dispositif qui est mis en place.
Est-ce qu'il garde son indemnité le temps de.
Oui, Steven, vous gardez tout à fait votre indemnité et ça va mettre. Maintenant, on va ouvrir les portes plus grandes pour les créateurs d'entreprises, puisqu'ils auront un droit à démissionner en ayant les 2 ans d'assurance chômage, s'il faut. Souvent, c'est 8 mois, 10 mois qui sont nécessaires. Enfin, le temps qu'il faut pour créer leur entreprise avec la sérénité, parce qu'effectivement, il y a le temps de la créer, puis le temps d'avoir un marché, d'avoir des clients. Mmh. Donc ça va permettre à plus de créateurs d'entreprises, à travers ce droit nouveau qu'on met dans la loi, d'être dans votre cas. Parce qu'aujourd'hui, ça dépend des cas, tandis que là, ça sera pour tous les créateurs d'entreprises, ils pourront bénéficier de l'assurance chômage.
Et alors Muriel Pénicaud, si Steven et Solène, ce qu'on, évidemment on ne leur souhaite pas, se cassent la figure avec leur entreprise, qu'est-ce qui se passe pour eux en termes d'indemnité finalement, d'indemnité chômage? On a l'impression qu'il y a eu une sorte de retour en arrière. On est moins dans un systématisme de l'indemnité pour les indépendants.
Non. Au contraire, on va au-delà de ce qui existe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance chômage pour les indépendants.
Alors certes, aujourd'hui, ça n'existe
aujourd'hui,
pas.
Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit d'abord, si vous voulez vous reconvertir ou créer votre entreprise, vous êtes salarié, vous pouvez bénéficier de l'assurance chômage pour le faire. Et là, ça vous laisse 2 ans. Bon, on sait avant 2 ans si ça va marcher ou pas. Et donc, ça permet de monter son entreprise et puis, au bout de quelques mois, de voir si ça marche. C'est bien, sinon, on a le temps de se retourner vers un emploi salarié. Et puis, pour ceux qui sont indépendants aujourd'hui, comme Solène, et qui, on peut avoir un coup dur, parce que c'est jamais écrit que ça va marcher. S'ils sont en liquidation judiciaire, on crée un droit nouveau, c'est que les indépendants puissent avoir quelques mois pour se retourner, 6 mois pour se retourner.
Donc c'est 800 euros
c'est
pour 6 mois.
Euros, voilà. Mais parce qu'ils ne cotisent pas. Si les indépendants décidaient de cotiser, on pourrait créer un système d'assurance chômage beaucoup plus développé. Mais comme pour l'instant, leurs représentants ont décidé de ne pas cotiser. Là, c'est de la solidarité, mais c'est pour éviter qu'un micro-entrepreneur, un agriculteur, un artisan, un commerçant, s'il est en liquidation judiciaire, du jour au lendemain, mais il se retrouve dans la mouise aujourd'hui.
Donc c'est 800 euros uniforme pour tout le monde.
Oui, c'est juste le temps de se retourner et de trouver d'autres solutions.
Avec un chiffre d'affaires plancher ou pas?
Oui, environ 10 000 euros.
Environ 10 000 euros. Mmh. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir, Madame la Ministre, je vous salue.
Bonsoir.
Voilà, donc je suis malheureusement la maman d'un jeune adulte atteint du syndrome d'autisme Asperger. Oui. Après de longues années de galère, il a trouvé un CDD grâce à un emploi aidé de 18 mois qui se termine là en août, mais qui malheureusement n'a très 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 peu de chance d'être renouvelé à cause des coupes sombres faites dans les emplois aidés, vous me comprenez? Voilà, donc je sais que les emplois aidés sont pour les personnes qui sont fragiles, un peu marginalisées, et s'il y a des personnes fragiles et marginalisées, ce sont bien les handicapés, et etc. J'en reviens au plan autisme qui a été lancé il y a peu de temps, je crois en avril, là. Voilà, il y a les emplois francs, qui sont limités géographiquement de façon extrêmement précise. Alors, si les emplois aidés ne peuvent plus aider les handicapés ou beaucoup moins, pourquoi ne pas faire des emplois francs ou aussi une géographie du handicap qui permettrait à nos pauvres handicapés, notamment les autistes, qui sont une large cohorte, notamment des jeunes adultes, qui pataugent dans un non-avenir absolument désespérant. Et je peux vous dire que je ne veux pas faire jouer la chanterelle du désespoir, mais voilà.
Mais c'est compliqué.
Je le comprends. Et puis,
et on a entendu votre émotion,
autisme,
Christine.
Mais pour vous, parce que je sais que à quel point ça peut être lourd, et puis c'est parfois un parcours du combattant qui n'en finit jamais. Et je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, et je pense comprendre ce que vous pouvez éprouver. Alors, d'abord, en ce qui concerne les parcours, les emplois aidés, qui s'appellent maintenant les parcours emploi compétences, on a renforcé leur efficacité puisqu'on rajoute de la formation et de l'accompagnement, ce qu'il y avait rarement avant. Mais on a mis comme priorité certains publics, si j'ose dire, et les jeunes handicapés, ou moins jeunes handicapés d'ailleurs, sont dans les priorités de ces emplois aidés. Donc, on a augmenté le nombre, la proportion dans les emplois aidés handicapés. Mais au-delà de ça, dans le projet de loi, avec ma collègue Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État en charge du handicap, nous avons plusieurs mesures nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 3,6% des salariés qui sont des personnes en situation de handicap, alors que ce sont 6 à 7% de la population active. Et pour ça, on a beaucoup de choses à bouger que nous prévoyons dans le projet de loi. La première, c'est, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'emploi ordinaire, il y a beaucoup de métiers qui sont considérés depuis 30 ans, c'est des vieilles listes, comme ne faisant pas partie des postes qu'on mesure pour mesurer si une entreprise remplit son obligation,
c'est-à-dire
d'avoir 6%.
Ah, d'accord.
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour des raisons bizarres, mais depuis 30 ans, quelqu'un qui est vendeur polyvalent dans un magasin, mais c'est un poste qui ne compte pas comme s'il ne pouvait pas accueillir de handicapés. C'est
d'accord.
Absurde. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de handicaps, il y a toutes sortes de traitements. On a beaucoup amélioré et les traitements, les technologies, les postes de travail. Il n'y a aucune raison. Et donc, on va déjà élargir toute une série de postes. Les différentes mesures qu'on prend dans la loi font qu'on estime qu'on va pouvoir permettre 100 000 personnes handicapées de plus dans les entreprises qu'aujourd'hui. Donc, je crois que ça, c'est un premier volet important. Et puis, il faut commencer aussi dès les jeunes. C'est ce que fait mon collègue Jean-Michel Blanquer dans l'école. On renforce les assistants de vie scolaire, mais aussi dans l'apprentissage. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a seulement un jeune en situation de handicap parmi les apprentis. Or, l'apprentissage, qui est un des gros volets de la réforme, c'est 7 emplois sur 10, c'est une rémunération, on peut aller du CAP à l'ingénieur, enfin, c'est une voie de réussite, c'est une voie de passion. Et donc, dans les 995 CFA, centres de formation d'apprentis en France, il y aura désormais un référent handicap qui va pouvoir travailler avec les jeunes, les familles et les entreprises pour booster tout ça. Parce que moi, je crois que c'est le sens de ce que vous dites et que je partage. Notre société n'est pas du tout assez inclusive aujourd'hui. Or, les travailleurs handicapés, non seulement ils ont le droit de travailler, mais ils ont aussi beaucoup à apporter à la société, et c'est ça qu'on veut développer.
Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Je voudrais qu'on écoute Monia. Bonjour Monia, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors bonsoir. Moi, j'interviens normalement sur ce qui est devenu le contrat professionnel formation, qui était le DIF avant, mais juste une toute petite précision concernant le recrutement en France. C'est une catastrophe parce que c'est les employeurs qui sont vraiment figés, qui cherchent toujours le mouton à cinq pattes. Je pensais que mon cas était particulier, mais je vois beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des Indiens, des ingénieurs qui viennent faire des grandes écoles ici et qui partent en Angleterre, qui sont tellement horrifiés par tout ce qu'on leur demande. Il faut avoir l'expérience dans le poste, dans le machin, il faut avoir un parcours linéaire. Enfin, en Angleterre, on leur dit « montrez-nous ce que vous pouvez faire ». Et ce que vous êtes capable de faire. Et ça, je pense que c'est plus un blocage de la part des employeurs. Il faudrait qu'ils sortent un peu de la boîte, quoi, et qu'ils commencent à voir un peu différemment et donner les chances aux gens qui ont envie de travailler.
Ben, je vous garde, Monia, parce que je sais que vous avez une question formation professionnelle, mais là-dessus, oui, Muriel Pénicaud, est-ce qu'il y a une trop grande exigence de certains ?
En fait, je connais bien le sujet, j'ai travaillé dans l'insertion, mais j'ai travaillé aussi 20 ans dans l'entreprise. Et donc, ce qui est nouveau, c'est depuis 6 mois, qu'est-ce que disent les employeurs ? Ils disent, nous, il y a des marchés qu'on ne peut pas prendre parce qu'on ne trouve pas les compétences sur le marché. Ce qui est un peu logique, puisqu'on a formé qu'un demandeur d'emploi sur 10 pendant les 10 dernières années, et les métiers évoluent. Donc maintenant, il faut tous y mettre pour construire les compétences, d'où la réforme de l'apprentissage, de la formation. Mais moi, ce que je leur dis, c'est exactement ce que vous dites. Je dis, oula, il faut ouvrir ouvrir les chakras ou les écoutilles. Si vous cherchez que des jeunes hommes entre 25 et 40 ans qui ont fait tel et tel type d'études, qui ont tel et tel type d'expérience, etc., vous n'allez pas les trouver. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a plein de femmes, plein de seniors, plein de jeunes en situation de handicap, plein d'habitants des quartiers des prioritaires de la ville qui sont pleins d'énergie, plein d'enthousiasme.
Du coup,
il faut ouvrir tout ça.
Muriel Pénicaud, on parlait tout à l'heure des chômeurs et du contrôle des chômeurs en disant, après tout, puisque chacun cotise, il faut bien qu'on puisse contrôler aussi ce qui se passe. Et pourquoi on ne contrôlerait pas aussi, parfois, et dans certains secteurs, la trop grande exigence de certaines entreprises, puisqu'ils ont des gens sous la main et que, visiblement, ça ne leur convient pas et qu'on laisse partir ces gens-là.
Oui, après alors, ce n'est pas de l'ordre de la loi ou du contrôle décider qui recrute qui, mais par contre, compte, y a des, on va aller plus loin. Aujourd'hui, les 6% par exemple de travailleurs handicapés qui sont censés être dans les entreprises, c'est pour ça que je disais on va ouvrir le type de poste pour qu'il y en ait plus. C'est pareil pour l'égalité salariale homme-femme. Il y a la loi existe, mais maintenant il faut agir de façon plus vigoureuse. Donc il y a toute une série de sujets sur lesquels moi je suis assez confiante. Pourquoi ? Parce que comme il y a la reprise. Comme
il y a la reprise.
Et
y a, c'est du très concret.
Y a, 288 000 emplois créés l'année dernière, okay. Net, et 48 800 au premier trimestre. Donc, on a cette perspective, et c'est le moment de dire, allez, on s'y met tous pour construire les compétences, mais du coup, eh bien, ouvrez les profils. Et je crois qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus ouverts au sujet qu'ils n'y étaient il y a quelques années.
Monia, je vous ai pas oublié. Hein. Je sais la suite de votre question, mais je voudrais au passage quand même vous faire profiter de ce mail. Mon fils, mes deux fils, Bac plus 5, se sont retrouvés sans travail il y a plus de 30 ans. L'un est diplômé de Georgia Tech. Il vient de trouver un job après 3 ans de galère en créant sa boîte. Le second est ergonome, n'a eu que des boulots plus ou moins proches de métiers d'ergonome. Il a craqué. S'il y a 30 ans, il ne peut pas y avoir d'avenir pour exercer ce métier. Est-ce que ce sera à 31? Quel avenir pour ces jeunes, demande cette auditrice, qui ont pourtant bossé, sans parler des sacrifices évidemment des parents. Là, en l'occurrence, ce sont des artisans et qui sont finalement rejetés. C'est le même sens de la question que le sens de la question de Monia, en fait.
Je pense que depuis...
On fait tout, on a tout ce qu'il faut. Pardon. Et au bout...
Je pense que pendant des années, il faut voir qu'on vient de vivre 20 ans de chômage de masse. Là, ça fait plusieurs trimestres qu'on recrée plus d'emplois qu'on en supprime. Chaque année, il y a 120 000 personnes de plus sur le marché du travail.
Très optimiste. Grâce, hein. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on est sorti du chômage de masse.
Non, qu'on a commencé la décrue, comme on dirait après une inondation. On a commencé. Donc, il faut l'amplifier. C'est tout l'enjeu des compétences pour que y ait plus de personnes qui puissent avoir, grâce à la compétence, une meilleure protection contre le chômage. Puis la liberté de choisir aussi, comme ces jeunes, un métier qui leur plaise et de réussir. Mais pour cela, je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement, il y a toute une série de choses qu'il faut faire bouger. Par exemple, là, c'est des jeunes qui ont plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui, par exemple, ont été à l'université ou fait des petits boulots, qui ont cherché leur voie et puis qui a 25, 26, 27 ans, ça y est, ils trouvent ce qu'ils veulent faire. Et puis quand même, ce qu'on réussit bien, c'est qu'on a la passion. Passion et le travail, c'est les deux recettes du succès. Hein. Eh bien, c'est pour ça qu'on va permettre d'entrer en apprentissage jusqu'à 30 ans, par exemple. Parce qu'on peut avoir fait plein de chemins de vie. Les chemins ne sont pas tout droits, pas tous linéaires, comme a dit l'auditrice précédente. Moi, je le crois. Puis souvent, d'ailleurs, qu'on a eu des chemins un peu de traverse, on est plus riche dans sa vie et on a plus de choses à apporter.
Monia, je sais que vous aviez une question donc, sur la formation professionnelle. Je vous ai interrompu, allez-y.
Non, je vous en prie. Donc, c'est une catastrophe. Il y a eu la réforme. Maintenant, l'heure de formation est valorisé à 9 euros brut. Donc, est-ce que on peut trouver le SMIC, il est à 9,37 euros ou 36. Est-ce qu'on peut trouver un formateur qui va vous livrer une formation en étant rémunéré 9 euros brut de l'heure ?
Marielle Pénicaud.
Alors, merci de votre question. Ça va permettre d'expliquer des choses qui n'ont peut-être pas encore été comprises. D'abord, le compte personnel de formation, c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques années. Vous pouvez aller sur votre compte. Tout le monde, tous les 26 millions d'actifs ont un compte à la Caisse des dépôts et consignations. Bon, honnêtement, c'est assez compliqué. La plupart des gens ne vont pas au bout. Et aujourd'hui, seulement 1 500 000 sur les 26 millions ont pu accéder à la formation. Pourquoi ? Parce que c'est formulé en heures. Et c'est surtout les demandeurs d'emploi qui arrivent à en bénéficier. Pas beaucoup les salariés. C'est formulé en heures. Mais une fois que vous avez vos heures, ça vous donne un droit qui est un peu théorique. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui le finance. Je vous dis, j'ai un droit, d'accord, mais il n'est pas financé ce droit. Où est-ce que je trouve le financement ? C'est quoi ce droit ? Et aujourd'hui, il est limité à 150 heures. Donc aujourd'hui, dans la réforme, au contraire, on va donner un droit mais que personne n'a jamais eu. On va d'ailleurs le premier pays au monde où, en plus du plan de formation des entreprises, chacun aura le droit de librement choisir une formation qualifiante, certifiante, reconnue, qui peut l'aider. Et donc, comment ça va se passer ? Ça veut dire que chaque année, tous les salariés recevront sur leur compte 500 euros, ça peut aller jusqu'à 5000 euros, ça représente beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui en heure. Et s'ils n'ont pas de diplôme, 800 euros, donc jusqu'à 8000 euros.
Et tout ça, c'est
à partir de ça, vous pourrez choisir directement sur Internet, sur une appli, avec un conseil en évolution professionnelle gratuit pour tous ceux qui souhaitent un conseil. Ah ça, c'est énorme. Vous pourrez choisir la formation qui vous intéresse, le TOEIC, le TOSA, le CACES, la formation que vous voulez.
On est d'accord avec des entreprises, Muriel Pénicaud, qui vous laissent partir en formation, évidemment,
alors,
à chaque
ça
fois
vous
pouvez le souhaitez.
Il y en a que vous pouvez négocier avec l'entreprise. Il y en a que vous pouvez faire... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui, par exemple, veulent faire un métier qui n'ont... peut-être qu'ils n'ont pas choisi à 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas choisi leur métier, qui sont prêts à se former. Et là, ce n'est pas l'entreprise qui va le payer si ce n'est pas un métier qui est dans l'entreprise. Mais qui sont prêts à aller se former. Il y a une demande croissante là-dessus. Et donc, vous pourrez vous former en physique ou en ligne. Alors, ce n'est pas 9 euros pour le formateur. D'abord, ce n'est pas 9 euros, c'est 12 euros, 24 en moyenne, et c'est à 100 euros. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la moyenne est à 12 euros. Mais c'est par personne. Donc, si c'est un groupe de 10, ça veut dire que c'est que ça va être 120 euros.
Et qui pilote
Aujourd'hui, ça correspond. On a prévu un peu plus que le coût moyen actuel. Et ce qui est important, c'est que c'est vous qui choisirez en disant mais moi, c'est la formation qui m'intéresse, soit pour avoir une promotion ou me reconvertir ou enrichir mon métier en plus de ce que fait l'employeur. Et vous pouvez aussi le cofinancer ou vous mettre d'accord.
Qui pilote ça en fait? France Compétences, c'est quoi?
Ah non, alors France Compétences, c'est autre chose dont je vais parler, mais je voulais finir là-dessus pour dire aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a seulement 6% des ouvriers, 12% des employés, 25% des cadres qui peuvent choisir leur formation. Or, la formation, c'est son avenir, c'est la protection contre le chômage, c'est mon moyen de promotion, c'est ma liberté de pouvoir changer d'entreprise ou de métier. Et donc ça, au contraire, on donne une grande égalité, parce qu'avec 500 euros, 5000 euros chacun, ça veut dire que, comme les heures pour les cadres supérieurs sont plus chères, on va avoir encore plus de droits et être encore plus libre. Et c'est la première fois qu'il y aura un vrai droit où chacun peut décider pour lui-même avec le conseil qu'il veut.
Le pilotage par France Compétences, ça veut dire quoi?
Alors, France Compétences, c'est autre chose. Le compte personnel de formation, le compte est à la Caisse des dépôts et conciliations, institution très robuste, qui va être un peu la banque du CPF. Mais l'interface utilisateur, comme on dit, ça sera sur une appli, sera très simple. En quelques clics, vous pourrez faire toutes les démarches ou rencontrer quelqu'un qui vous conseille. Le France Compétences, c'est autre chose. Vous savez, il y a 80 000 organismes de formation en France, dont 8 000, c'est l'activité principale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence de qualité, il n'y a pas de régulation, ni des coûts, ni de la qualité. Donc, on va se mettre ensemble, l'État, les régions, les partenaires sociaux, pour certifier les organismes de formation, surveiller les coûts et réguler. Alors, ça ne se verra peut-être pas pour vous, mais ça permettra que les coûts ne s'envolent pas, parce que quelquefois, il y a des coûts qui ne sont pas justifiés. Et ça permettra surtout que quand vous vous inscrivez à une formation, vous soyez sûr qu'il y a une qualité derrière. Et d'ailleurs, vous aurez toutes les informations, parce que vous aurez combien ont reçu le diplôme, combien ont eu un emploi derrière. Voilà, tout ça, ça sera disponible directement auprès des 26 millions d'actifs.
Je voudrais qu'on fasse un aller-retour au standard. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute, allez-y.
Bonsoir.
Oui, et j'ai entendu tout à l'heure une dame de 62 ans qui disait qu'on lui demandait de justifier une recherche d'emploi. Alors, à 62 ans, si on n'a pas des réseaux, on ne trouve pas de travail. Si on a des réseaux, on n'est pas au chômage. Hein? Moi, j'ai été chômeur à 57 ans, j'ai été ingénieur. On m'a dit, c'est pas à peine de chercher du travail. J'étais dispensé de recherche d'emploi jusqu'à ce que je touche ma retraite. Alors, c'est un peu l'hypocrisie, ça, parce que quand on voit ce qu'on propose à 62 ans, puis là, je vous entends parler de la formation professionnelle, c'est magnifique sur le papier. Dans la réalité, c'est tout autre chose. Parce que un employeur, parce que les employeurs sont assez rigides. Hein, quand vous allez arriver à 50 ans en disant, j'ai suivi une formation pour tel métier et c'est ma seule expérience professionnelle, il va prendre un petit jeune qui sort de l'école. Il ne va pas vous prendre, surtout que vous êtes plus cher. Et comme vous avez de l'expérience, vous allez pas accepter n'importe quoi. Alors ça, c'est des choses théoriques sur le papier. On se gargarise avec ça. Et le résultat derrière, il n'y aura rien du tout, comme d'habitude.
Merci Dominique pour ces remarques. Je voudrais ajouter, Muriel Pénicaud, la remarque de Georges, parce qu'elle va dans le sens de ce que dit Dominique. Et il y a énormément de questions autour de ces problématiques-là. On va faire travailler les seniors jusqu'à quel âge, vous demande Georges, reprendre une formation à 58 ans, franchement?
Alors, d'abord, Dominique, je comprends ce que vous dites. J'ai répondu tout à l'heure. Je crois que c'est normal qu'on puisse dispenser de recherche d'activité quand on n'est pas loin de la retraite. Ensuite, je crois que la formation aujourd'hui, il faut qu'on sorte de nos têtes que c'est que quand on est jeune. L'autre jour, je voyais une entreprise qui a décidé d'embaucher, pour une fois, en priorité des seniors. C'est rare, mais ça, j'espère
c'est bien que ça j'allais vous dire. Reconnaissez que c'est
quand
même très rare.
Pourquoi? C'est parce qu'ils ont quand même aperçu que c'est quand même bien d'avoir de la maturité et de l'expérience. Vous me direz, c'est le bon sens. Mais qu'avoir de la maturité et de l'expérience dans une équipe, ça équilibre et ça permet aussi de transférer.
C'est vrai. Eh bien, sur le papier, comme dirait Dominique, c'est vrai.
Et là, c'était un métier nouveau. Pourquoi on ne peut pas se former à 55 ans si on est en capacité de travailler, qu'on veut travailler? On peut apprendre des métiers nouveaux, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, vous décrivez, Dominique, il décrit la situation d'aujourd'hui. Et il a raison, je le comprends.
Et c'est exactement
ce que qu'on veut changer.
Voilà, il n'y a pas de raison, mais dans les faits, c'est exactement ce que
Dominique décrit. Mais il a raison, c'est bien pour ça qu'on fait cette réforme, c'est qu'il faut changer ça. Moi, je suis d'accord avec vous, Dominique.
Eh bien, écoutez, il faut changer ça. Et on espère que tout ça va réellement changer. Bonsoir, Claude.
Oui, bonsoir.
Allez-y rapidement, bonsoir. Si vous voulez bien.
Oui. La formation d'apprenti fonctionne. Allô ?
Oui, oui, je vous entends.
La formation en apprentissage fonctionne.
Attendez. Claude, vous savez quoi ? Il y a plein de bips dans votre téléphone. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est votre oreille qui le fait fonctionner en même temps. On va se remettre un tout petit peu d'aplomb, mais restez en ligne. Hein. Je vous reprends dans une seconde. J'en profite, Muriel Pénicaud. Cette question sur franceinter.fr, il est légitime de contrôler les demandeurs d'emploi, mais a priori, on ne peut pas contrôler comment embauchent les entreprises et les patrons. Quid des stages déguisés en CDD à répétition ?
Alors,
et en creux, où en est le bonus-malus ?
Oui, voilà. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est chef d'entreprise, si on a un à-coup imprévisible et on a besoin de personnel en plus, c'est normal d'embaucher en CDD en intérim ou un remplacement. Par contre, quand ça devient un système de gestion, franchement, c'est pas de la bonne gestion pour moi. Et puis, encore une fois, j'ai l'expérience dans ce domaine-là. Moi, j'ai vu des usines où la moitié des salariés sont en intérim. Comment vous voulez faire la qualité et la sécurité au travail si la moitié des personnes sont en intérim? Et pourquoi être condamné à la précarité? Parce que je crois qu'on sera tous d'accord dire que si on est en CDD ou en intérim, durablement...
Donc bonus-malus ou pas,
durablement, c'est difficile de se loger, d'avoir d'emprunter. Donc la précarité, la flexibilité, c'est bien si c'est court terme. Souvent, un CDD, un intérim, ça vous permet d'avoir un emploi en CDI derrière. Mais si vous êtes condamné à rester dans la précarité, en général, d'ailleurs, c'est plutôt des postes moins payés.
Donc Muriel Pénicaud, pardon,
donc,
est-ce qu'il y a bonus-malus?
Dans le projet de loi, on a prévu effectivement de faire ce qu'on appelle le bonus-malus. Les partenaires sociaux ont demandé de négocier. S'ils n'y arrivent pas, nous, c'est l'État qui le fera. C'est quoi le bonus-malus? C'est dire, il y a des entreprises qui vraiment essaient le plus possible d'avoir des CDI et gardent l'emploi plus flexible que pour les besoins non prévisibles. Et puis d'autres en font un système de gestion. Mais il n'y a pas de raison que les premières payent pour les secondes. Parce que ça met beaucoup de demandeurs d'emploi dans une situation de précarité qui dure. Et ça, franchement, c'est pas le modèle de société qu'on veut. Et en même temps, ça coûte 9 milliards à l'assurance chômage. Donc ça veut dire que bonus-malus, ça veut dire que les entreprises qui mettent
trop de CDD, on paye.
C'est alors, clairement. C'est pas le nombre de contrats. C'est, parce que s'ils prennent un CDD et puis que la personne ensuite est embauchée, c'est super, ça a fait tremplin. C'est ceux qui font beaucoup de CDD ou d'intérim et qui remettent les gens systématiquement au chômage. Et dans 70% des cas, c'est la même personne qu'ils embauchent plusieurs fois et qui remettent au chômage. Donc là, c'est pas la même démarche. Et donc, on en tiendra compte. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui paieront plus que les 4% d'assurance chômage et d'autres moins, en fonction de leur pratique. C'est une lutte contre la précarité excessive.
Claude, on vous a retrouvé sans vos bips et on vous écoute. Allez-y.
Oui, ma question donc, c'est la formation par apprentissage fonctionne depuis des dizaines d'années.
Oui.
Elle a permis de certifier par le CAP les bacs pro et même la licence des salariés qualifiés, et surtout capable de s'adapter aux mutations technologiques.
Oui.
Les programmes étaient définis en commission paritaire sous l'égide de l'éducation nationale, paritarisme entre les syndicats et les syndicats d'employeurs. Alors ma question, c'est, je voudrais savoir ce qui ne fonctionnait pas dans ce système pour que vous ayez décidé de le casser intégralement et de confier toute cette formation aux entreprises directement, sous forme vraisemblablement de bassin d'emploi.
Donc Muriel
de formation
Pénicaud.
À court terme.
Alors, d'abord, je partage votre point de vue, Claude. L'apprentissage, c'est une voie formidable. Et pour les jeunes et les familles qui ne le savent pas encore, discuter avec des maîtres d'apprentissage, des 1 sur 4 créer son entreprise ensuite.
Sauf qu'on a été très réticents en France jusqu'à présent.
Oui, mais on a une petite bataille de culturelle à faire.
Voilà.
C'est une autre pédagogie, on fait pour apprendre, c'est une autre pédagogie que le statut scolaire. Les deux sont utiles. La bonne voie, c'est celle qui fait réussir le jeune. Et il faut, et c'est le projet de la réforme, c'est de faire en sorte que beaucoup plus de jeunes puissent y accéder. Aujourd'hui, c'est seulement 420 000 apprentis. Et il y a 1 300 000 jeunes qui sont ni en formation ni en emploi.
Et dans votre projet, donc, ce sont les branches qui prennent la main, en fait.
Ce que Claude dit, c'est que pour définir le contenu des diplômes, CAP pâtissier, bac pro, comptabilité, ce sont les professionnels. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide en consultant les partenaires sociaux. Ce qu'on dit sur ce sujet-là, ça, le contenu des diplômes, ça reste national, il n'y a pas de changement. Mais on dit que c'est les professionnels qui doivent définir le contenu professionnel et on va co-construire les diplômes plus qu'aujourd'hui, où en gros l'État aujourd'hui peut dire ne pas tenir compte de la vie des professionnels. On considère que quand même les partenaires sociaux, ils savent quels sont les métiers de demain, vous l'avez dit, et les métiers pas simplement d'aujourd'hui et de demain, donc on va co-construire les diplômes.
Mais les branches prennent aussi le pas sur les régions qui elles connaissent leur bassin d'emploi, et alors, on les entend les gens dans les régions dire attendez, nous on a une compétence.
Les régions ne prennent pas du tout le pas sur les entreprises, on dit que pour
non,
réussir...
Contraire. Les entreprises prennent le pas sur les régions.
Voilà. Non, ce qu'on dit c'est ce qui compte. Monsieur qui connaît, Claude qui connaît bien l'apprentissage, qu'est-ce qui compte pour que ça marche? C'est qu'il y a un jeune, un maître d'apprentissage dans l'entreprise et un formateur dans le centre de formation d'apprentis. Ça, c'est le triangle qui fait réussir et qui fait qu'il y a tant de jeunes qui réussissent et on peut aller du CAP à l'ingénieur comme ça ou au master. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de freins réglementaires, administratifs, financiers qui fait que tout l'argent de l'apprentissage ne va pas à l'apprentissage et qu'il y a beaucoup de centres de formation d'apprentis qui ne peuvent pas se développer. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un jeune et une entreprise qui font un contrat d'apprentissage, ils pourront faire trois choses. La première, ils seront sûrs d'avoir le financement dans le centre de formation d'apprentis, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui. Deuxièmement, ils pourront adapter la durée du contrat en fonction de l'acquis du jeune. Si le jeune, il a fait Bac plus 3, eh bien, on va pouvoir raccourcir le contrat. La partie formation générale, on ne recommence pas à zéro. S'il a plus de difficultés, on pourra prolonger qu'il ait une prépa apprentissage. Et puis, ça pourrait être toute l'année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on fait beaucoup de choses. En fait, c'est une réforme qui est centrée sur faire réussir le jeune et l'entreprise dans l'apprentissage.
Voilà, une réforme qui est passée au Parlement, qui n'a pas fini ses allers-retours, ce qui nous donnera l'occasion d'en reparler. Muriel Pénicaud, merci beaucoup de ce face-à-face avec les auditeurs d'Inter et merci à tous pour vos nombreux appels. Portez-vous bien.